Et le journal est donc présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Bernard Cazeneuve lance des consultations pour aider l'islam de France à se structurer sans financements étrangers. Deux institutions seront sur pied avant la fin de l'année. Le CFCM salue une étape historique, compte rendu de Willy Moreau. Reprise des négociations sur le prix du lait, Lactalis rencontrera des représentants des organisations de producteurs demain à Laval. Alors que plusieurs syndicats d'enseignants appellent à la grève le 8 septembre, Najat Vallaud-Belkacem défend la réforme du collège. C'est plus d'autonomie, plus de liberté au bénéfice de tous nos élèves, affirme la ministre qui reçoit le soutien de l'UNSA Éducation. Voter pour la démocratie, c'est l'appel lancé par Dilma Rousseff au sénateur brésilien. La présidente menacée de destitution est venue se défendre des accusations de maquillage des comptes publics. Elle dénonce un coup d'État contre la Constitution. Reportage d'Anne Vignat. Après un été marqué par l'attentat de Nice et l'attaque de Saint-Étienne-du-Rouvray, après les débats sans fin sur le burkini, c'est dans un climat tendu que se relance le chantier de la construction d'un islam de France. Un islam ancré, selon l'expression de Bernard Cazeneuve, dans les valeurs de la République. Le ministre de l'Intérieur a organisé une journée de consultation. Il a soumis ses mesures à des personnalités politiques, culturelles et du monde de l'entreprise. Un sujet majeur, Willy Moreau, celui du financement du culte musulman en France.
Et par financement, Bernard Cazeneuve entend trois thèmes principaux. D'abord, celui de la fondation de l'islam, elle sera dotée d'au moins 1 million d'euros. En fait, elle reprend les comptes de l'ancienne fondation pour les œuvres de l'islam, 948 000 euros auxquels s'ajoutent des dotations de l'État et des subventions privées. Pour l'instant, les modalités de la mise en place de cette fondation restent floues. Elle doit voir le jour en fin d'année ou en janvier prochain et 11 membres seront à sa tête, parmi lesquels Jean-Pierre Chevènement, mais aussi le président du Conseil français du culte musulman, Dalil Boubaker, ainsi que des représentants des ministères de l'Éducation nationale, de l'intérieur et de la culture. Deuxième volet, celui de l'association cultuelle. Là encore, sa mise en place est en cours de négociation. Elle sera autogérée et ne pourra recevoir uniquement des dons français. Bernard Cazeneuve l'a rappelé tout à l'heure, le fait de mettre en place une association loi 1905 permet de mieux contrôler les fonds qui transitent dans cette association. Elle recevra notamment une contribution sur les ventes de produits halal, mais le ministre de l'Intérieur a précisé que cette contribution sera volontaire. Enfin, la question du financement de la formation des imams a longuement été évoquée. L'État financera les formations universitaires avec une augmentation dans les prochaines années des enseignements disponibles. En 2014, seules 3 universités en France proposaient des formations sur l'islamologie par exemple. En 2016, elles seront 15. La formation théologique sera quant à elle à la charge de l'association. Séparation entre les églises et l'État oblige.
Merci Willy Moreau. Plusieurs personnalités ont préparé à cette journée de réflexion. Non seulement les représentants du CFCM, le Conseil français du culte musulman, mais aussi les membres de l'appel des 41, ces musulmans issus de la société civile, restés discrets jusque-là, et qui avaient décidé fin juillet de prendre position dans le débat. Parmi eux, Hakim El-Karoui, chef d'entreprise. Aujourd'hui, plus que jamais, il entend jouer un rôle dans la mise en place de ces nouvelles instances. C'est ce qu'il a dit à Bernard Cazeneuve.
On lui a dit qu'on voulait être impliqué à la fois dans la fondation, et c'est plus important, dans l'association 1905, cultuelle, parce que c'est l'association 1905 qui va recevoir, a priori, le plus d'argent, qu'il va falloir aller chercher, notamment autour du halal. Et c'est l'association 1905 qui va devoir financer les mosquées, les imams, la formation. Donc le cœur du sujet, ne vous méprenez pas, c'est pas la fondation culturelle qui a d'ailleurs un petit peu changé d'objet. Elle est devenue une institution qui n'a qu'une vocation culturelle et elle est présentée maintenant comme en fait un lieu de dialogue entre la République et l'islam. On a dit aussi au ministre qu'on trouvait que le choix de Jean-Pierre Chevènement n'était pas idéal parce que M. Chevènement, que tout le monde respecte, n'est pas musulman et M. Chevènement n'est pas non plus un spécialiste de la culture islamique. Bon. À partir de là, on avait deux solutions. Soit on claquait la porte en disant on trouve que symboliquement c'est inacceptable, soit on restait en voulant être constructif. Et très sincèrement, dans le climat qui est le nôtre aujourd'hui, dans le climat des attentats, dans le climat de la peur et dans le climat de la campagne électorale qui s'ouvre, où le sujet de l'islam, comme vous l'avez remarqué, va être assez central, on pense que c'est mieux de rester. Donc on essaye d'être constructif. On a une discussion avec le ministre. On va avoir des discussions avec le CFCM. Et si on perd notre temps, on partira parce que très sincèrement, on a d'autres choses à faire.
Le chef d'entreprise Hakim El Karoui, membre de l'appel des 41. Dans quelle mesure l'État peut-il contrôler le discours religieux ? En Égypte, une rude bataille s'est jouée pendant l'été entre le gouvernement et la grande institution d'enseignement sunnite Al-Azhar. Le gouvernement a souhaité imposer un prêche unique pour toutes les mosquées du pays. Un texte rédigé à l'avance chaque semaine est destiné à être lu lors des sermons du vendredi. L'opération a échoué face à la grogne populaire et au veto d'Al-Azhar. Officiellement, il s'agissait de lutter contre l'extrémisme religieux, mais beaucoup y ont vu une volonté de contrôler les imams et d'éviter tout discours critique contre le pouvoir. Au Caire, le reportage de François Humfer Kataji.
En ce vendredi matin, dans les hauteurs du Caire, dans le quartier de Mokattam, les fidèles arrivent le pas léger à la mosquée de Mastoura. Les papas, vêtus d'une galabilla blanche, tiennent leur fils par la main. Les plus âgés sont coiffés de la tahira traditionnelle. Dans cette mosquée, l'ancien imam, proche des frères musulmans, a été révoqué après l'arrivée de Sisi au pouvoir, comme 12 000 autres imams dans le pays. En Égypte, c'est le ministère des biens religieux qui salarie et choisit les imams. À la sortie du prêche, Mohamed Salah, 20 ans, revient sur la polémique autour du sermon unifié que le pouvoir égyptien a essayé d'instaurer au début de l'été.
Je crois que la religion et la politique doivent être deux choses séparées. Maintenant, ils limitent les gens à un sermon officiel. Que se passe-t-il si l'imam veut parler de quelque chose d'autre, quelque chose à propos d'un sujet qui concerne ma communauté? Est-ce que cela veut dire que je suis un terroriste? En passant, je ne suis pas un frère musulman.
Face aux critiques, l'obligation du sermon officiel, rédigé de A à Z par le ministère, a été levée. Les imams sont cependant désormais tenus de respecter un grand thème pour leur prêche. Ahmed Hamdi est conseiller politique du grand imam d'Al-Azhar. Pour lui, les fidèles auraient déserté les mosquées officielles pour des mosquées clandestines en cas de sermon unique imposé par le gouvernement.
Al-Azhar a refusé l'ordonnance de ses sermons car on estime qu'on ne peut pas transformer un imam, un prêcheur, en machine. Juste tenir un papier et lire un sermon. Al-Azhar est contre ça, car chaque endroit, chaque ville a son propre contexte. Ce que je peux dire au Caire pour les musulmans, dans les mosquées, ce n'est pas la même chose que ce que je suis censé dire dans un village à Mansoura ou en Haute-Égypte. Donc pour Al-Azhar, ce n'est pas renouveler le discours religieux, c'est le détruire. On est d'accord sur le principe de contrôler les mosquées, mais pas avec ce procédé. On refuse ce procédé-là.
Kamal Habib est docteur en sciences politiques et ancien membre de la Gamma Ismaïlia, un groupe islamiste violent qui a sévi dans les années 90.
La relation entre la religion et le gouvernement en Égypte est toujours très ambiguë. Ce n'est pas clair. Cela a commencé pendant la période Nasser dans les années 60, pendant laquelle il a en quelque sorte nationalisé Al-Azhar pour que l'institution coopère plus avec le pouvoir. Al-Azhar était une institution qui représentait la société et le peuple, pas le gouvernement. Mais après ce que Nasser a fait, c'est devenu une partie du gouvernement lui-même. Il a politisé la religion islamique et la religion chrétienne. Et ce mouvement a continué sous Sadat, puis sous Moubarak.
Les régimes successifs ont toujours essayé de contrôler le discours religieux. Aujourd'hui, la crainte d'une parole contestataire venant d'Al-Azhar ou des imams existe toujours, selon Amr Ezzat, spécialiste des questions islamiques à l'EIPR.
Selon moi, la grande idée de renouveler le discours religieux n'est rien d'autre que de la propagande. Le gouvernement et la sécurité d'État ne font pas confiance aux religieux d'Al-Azhar. Al-Azhar n'est pas encore homogène avec une seule idéologie ou courant de pensée. Al-Azhar est très hétérogène. Et après le coup d'État du 30 juin, le gouvernement a estimé que beaucoup de religieux étaient islamistes et proches de l'ancien régime. Donc le gouvernement veut éviter toute forme de contestation, y compris religieuse, parce qu'en réalité, le gouvernement ne fait pas confiance à Al-Azhar.
Selon le spécialiste, l'indépendance des imams en Égypte vis-à-vis du gouvernement est vécue comme une ligne rouge à ne pas franchir.
François Humfer Kataji au Caire. Lactalis et les organisations de producteurs de lait vont reprendre leurs négociations. Le groupe alimentaire annonce une nouvelle réunion demain matin en préfecture de Mayenne. La semaine dernière, les discussions sur le prix du lait avaient échoué et la FNSEA annonçait de nouvelles actions pour ce soir avec le blocage de sites Lactalis. Des actions maintenues malgré la reprise des négociations, ce qui exaspère Michel Nallet, le porte-parole du groupe Lactalis.
Nous nous interrogeons tout de même aujourd'hui sur cette surenchère des actions menées par la FNSEA, donc orchestrées par ce syndicat, qui en même temps demande la négociation et puis également souhaite bloquer un certain nombre de nos sites. Donc aujourd'hui, il est important et je veux aujourd'hui appeler au calme et à la responsabilité de tous. Il est important que nous travaillions dans le calme pour reprendre ces négociations positivement. Il n'est pas question pour moi de minimiser les difficultés que les producteurs rencontrent aujourd'hui et c'est pour cela qu'il est important pour leur donner des réponses et une perspective pour la fin de l'année que ces négociations reprennent demain matin dans le calme à nouveau à la préfecture de Laval.
Ce matin, ils ont dit « pour l'instant, on est calme, mais on retient nos troupes ».
Nous prenons acte de ce calme et nous souhaitons que cela perdure.
Michel Nallet du groupe laitier Lactalis. Najat Vallaud-Belkacem prédit une rentrée apaisée. C'est pourtant avec un ton très offensif qu'elle s'est exprimée ce matin lors de la traditionnelle conférence de presse de rentrée. Confrontée à un appel à la grève pour le 8 septembre et aux attaques de la droite, la ministre de l'Éducation a dénoncé les fantasmes et les caricatures. Non, la terre ne va pas se fendre en deux jeudi prochain et on continuera à enseigner le latin et le grec, a-t-elle déclaré, assurant que les changements décidés au collège sont nombreux mais nécessaires, car si le système scolaire français assure la sélection des meilleurs, il peine à assurer la promotion de tous. La réforme du collège est notamment soutenue par l'UNSA Éducation. Son secrétaire général, Christian Chevalier, appelle à ne pas juger trop vite et plaide en faveur du temps long.
On a besoin, dans notre pays, en effet, de sérénité en ce qui concerne l'éducation. Je crois que depuis maintenant une trentaine d'années, nous subissons les effets yo-yo de la politique, c'est-à-dire qu'à chaque alternance, on remet à plat tout ce qui a été fait par les prédécesseurs pour repartir sur de nouvelles bases. Or, chacun le sait, ce qui fait une bonne éducation, c'est le temps. Le temps de l'éducation, ça n'est pas le temps politique, ça n'est pas le temps des petites phrases. Le temps de l'éducation, c'est le temps d'un enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant qui rentre à l'école maternelle à 3 ans, son éducation dans le système éducatif, elle va durer entre 15 et 20 ans, voire 25 ans s'il fait des études supérieures. Et on voit bien que pour mesurer les effets d'une réforme, quelle qu'elle soit, il faut prendre le temps de l'installer, il faut prendre le temps nécessaire pour que les enseignants se l'approprient, pour que les parents la comprennent, pour que les élèves comprennent les attendus qui sont ceux de l'institution. On a besoin de temps pour construire l'école, on n'a pas besoin de petites phrases, on n'a pas besoin de provocations, on a besoin de durée et je pense qu'il est grand temps aujourd'hui que cessent ces affrontements d'ailleurs qui sont stériles parce qu'ils ne règlent en rien la difficulté des élèves les plus fragiles.
Christian Chevalier de l'UNSA Éducation répondait à Hakim Kasmi. Najat Vallaud-Belkacem sera ce soir à Colomiers, près de Toulouse. Elle participe avec d'autres ministres comme Marisol Touraine et Stéphane Le Foll à un meeting de rentrée qui se veut un rassemblement de la majorité. Le chef du gouvernement, Manuel Valls, doit s'exprimer autour de 19h. Le décret est paru au journal officiel. Certaines aides à la presse sont renforcées et un nouveau fonds est créé pour soutenir l'émergence et l'innovation des médias. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour Aurélie.
Ce sont des bourses qui doivent favoriser le développement de ces médias pendant leurs premières années.
Oui, car si les aides actuelles sont importantes, eh bien jusqu'ici le système ne prévoyait quasiment rien pour favoriser l'émergence de nouveaux médias. Alors ce fonds sera en 2016 doté de 2 millions d'euros pour aider des titres à se lancer. Concrètement, il est destiné à octroyer des bourses et à aider les incubateurs et autres structures d'accompagnement des créateurs de médias. Pour les entreprises de presse déjà établies, le ministère de la Culture et de la Communication a annoncé une hausse des aides accordées et d'autre part, le spectre des bénéficiaires de ces aides est élargi. Des mensuels, bimensuels et trimestriels de la presse locale, soit une quinzaine de titres, pourront désormais toucher des aides. Et sur le web, les titres liés au savoir et à la connaissance seront aussi éligibles et non plus seulement les médias d'information politique et générale. Alors il s'agit là du deuxième volet d'une réforme des aides à la presse lancée par l'ancienne ministre Fleur Pellerin. Après l'attentat contre Charlie Hebdo, le gouvernement avait déjà étendu les aides aux titres à faibles ressources publicitaires. Le système avait tendance à favoriser les titres déjà établis. En 2015, sur les 108 millions d'euros d'aides directes versées, 93% concernaient le papier et pour les aides indirectes, c'est plus de la moitié. Le Figaro, Aujourd'hui en France et Le Monde restent les trois titres les plus aidés.
Merci Catherine Pétillon. Le plaidoyer de Dilma Rousseff, la présidente brésilienne menacée d'être définitivement écartée du pouvoir, est venue se défendre aujourd'hui devant le Sénat brésilien. Elle a reconnu ses erreurs, mais rappelé que son mandat venait du vote populaire. Dilma Rousseff juge donc sa destitution illégale. Si les sénateurs lui rendent son mandat, ce qui semble peu probable, elle promet d'organiser une consultation sur l'opportunité de nouvelles élections. Anne Vigna a écouté son discours.
Dilma Rousseff a donc bien prononcé les termes de coup d'État parlementaire devant le Sénat, malgré les menaces des sénateurs de quitter l'hémicycle à ces mots. Pour la présidente, les sénateurs sont en train de commettre un acte illégal qui va compromettre la démocratie brésilienne. Elle considère qu'elle n'a commis aucun crime qui puisse justifier sa destitution, mais qu'on veut la destituer coûte que coûte depuis sa réélection.
La vérité, c'est que le résultat électoral de 2015, ma victoire, a été une défaite dure pour l'élite conservatrice. Ils ont tout fait depuis pour me déstabiliser, moi et mon gouvernement. C'est ainsi qu'il faut comprendre la dure crise que vit le pays depuis 2015. La possibilité de me destituer est devenue, à peine 2 mois après mon élection, le point central de l'agenda politique et médiatique du pays.
La présidente a surtout insisté sur le fait que son gouvernement menait une politique très différente de celle que va proposer Michel Temer. Pour Dilma Rousseff, il ne fait aucun doute qu'en lui enlevant son mandat, les sénateurs mettent fin au projet politique du Parti des Travailleurs qui consiste, selon elle, en une redistribution des richesses dans un Brésil très inégalitaire.
Pour la Turquie, Daesh et la rébellion kurde sont deux faces d'une même menace. Depuis mercredi dernier, l'opération Bouclier de l'Euphrate vise aussi bien les combattants kurdes que des djihadistes et Ankara assume, expliquant vouloir empêcher les Kurdes syriens de mettre en place un corridor qui diviserait la Syrie. Washington dénonce ces affrontements sans réussir à se faire entendre. La correspondance d'Alexandre Billette à Istanbul.
Après avoir pris aux mains des djihadistes la ville de Jarablus avec facilité, les forces turques se concentrent désormais sur les régions contrôlées par les forces démocratiques syriennes, le FDS à majorité kurde, et le ton d'Ankara est de plus en plus combatif. Pour la Turquie, un territoire kurde contigu dans le nord de la Syrie serait inacceptable, le vice-premier ministre turc l'a encore répété aujourd'hui. Les opérations militaires vont se poursuivre afin d'empêcher, je cite, « la mise en place d'un corridor kurde sur tout le nord de la Syrie ». Bref, la Turquie qui veut faire reculer à tout prix les milices kurdes à l'est de l'Euphrate et qui semble prête à y mettre le prix, au risque d'envenimer encore davantage la situation d'abord à l'intérieur du pays. Déjà, le PKK a multiplié les attaques ces derniers jours et pourrait bien passer à la vitesse supérieure en guise de rétorsion. Au risque également d'envenimer les relations avec Washington, les États-Unis qui soutiennent les milices kurdes et qui ont qualifié lundi les combats entre l'armée kurde et le FDS d'inacceptables.
Le journal Zaman France ne paraîtra plus. La violence du climat politique actuel en Turquie et la tournure inquiétante qu'ont prise les événements ne nous permettent plus d'accomplir correctement notre travail journalistique, écrit la rédaction. Franchise du quotidien turc réputé proche du mouvement de l'imam Fethullah Gülen, Zaman France souligne les menaces visant des membres de son équipe. Le groupe État islamique revendique une attaque sanglante au Yémen. Ce matin, à Aden, un kamikaze a fait exploser sa voiture contre un centre accueillant de jeunes recrues de l'armée yéménite. 71 personnes ont été tuées et il y a près de 100 blessés. Le président ouzbek est au plus mal, c'est du moins ce que l'on peut supposer à la lecture des informations communiquées par l'une de ses filles. Islam Karimov, 78 ans, à la tête du pays d'Asie centrale depuis plus d'un quart de siècle, est en réanimation suite à une hémorragie cérébrale. Bonjour Bruno Kaden.
Bonsoir Aurélie.
Qu'une telle information paraisse sur la santé du chef de l'État ouzbek, c'est très inhabituel.
Oui, hier, les autorités ouzbeks annonçaient à la télévision nationale l'hospitalisation, sans plus de précision, de leur président. Une nouvelle qui avait alerté car jamais en 25 ans de règne sans partage, il n'avait été question officiellement de la santé d'Islam Karimov, sujet tabou par excellence. Et puis preuve de la gravité de la situation, l'une des deux filles du président ouzbek, Lola Karimova, a écrit sur Instagram que son père était en réanimation suite à une hémorragie cérébrale survenue samedi matin. Mais elle ajoute que son état est stable et qu'il est trop tôt pour faire des pronostics sur son état futur. La dernière apparition publique d'Islam Karimov remonte au 17 août dernier. Âgé de 78 ans au pouvoir depuis la fin de l'époque soviétique, Islam Karimov est le prototype du président autoritaire d'Asie centrale, élu et réélu avec plus de 90% des voix, ayant éliminé toute opposition et tentant de garder de bonnes relations avec Moscou tout en commerçant avec l'Occident. C'est pour cela que le bulletin de santé d'Islam Karimov est suivi avec la plus grande attention au Kremlin. Nous sommes profondément attristés par la maladie d'Islam Karimov, a déclaré le porte-parole de Vladimir Poutine, qui ajoute que comme la Russie accorde de l'importance à ses relations avec l'Ouzbékistan, l'Ouzbékistan. Elle veut vraiment recevoir de bonnes nouvelles sur l'état de santé de son président. Une vacance du pouvoir en Ouzbékistan, zone travaillée par les islamistes, inquiète vraiment la Russie. Au moment où l'Europe de l'Est s'éloigne de Moscou, l'Asie centrale reste pour le Kremlin la dernière zone d'influence stable. Mais ses présidents à vie commencent à être vieux et malades.
Bruno Cadenne, merci. Enfin, plus de 3 millions d'années après, la mort de Lucie a peut-être été élucidée. Selon une étude scientifique publiée dans la revue Nature, la célèbre Australopithèque serait tombée d'un arbre et elle aurait chuté de plus de 12 mètres. D'après l'anthropologue John Kappelman de l'Université du Texas à Austin qui a étudié le fossile, la mort est survenue rapidement. Le temps sera généralement agréable demain, mais des averses, parfois orageuses, toucheront les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Les températures maximales varieront entre 25 et 31 degrés.